Salut à vous, chers auditeurs. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de votre programme Coronavirus et les communautés. Dans notre production de ce jour, nous parlerons de la gestion de l'information autour de cette crise sanitaire. Quand on sait que l'effet de surprise des crises provoque généralement la panique et donne naissance aux rumeurs les plus folles. Il est donc important de mettre en place un dispositif de communication spécifique permettant de rassurer, de sensibiliser mais aussi d'éduquer. Comment le gouvernement camerounais, la presse locale, les ONG, les populations ont géré le flux d'informations circulant pendant cette période de crise? Nous aurons l'appréciation des experts. Nous partagerons également le témoignage d'une victime de la peur créée par le flot d'informations macabres autour du coronavirus. Et en conclusion, nous parlerons de la stratégie de communication mise en œuvre par une ONG pour informer et rassurer les populations au cœur de la crise créée par la COVID-19. Je suis Eric Ndongo, bienvenue à tous.
Ceci est un message d'intérêt public. Parents, tuteurs et enfants, la pandémie du COVID-19 n'est pas encore vaincue. Raison pour laquelle vous devez vous rappeler qu'il est nécessaire d'emporter vos masques faciaux lorsque vous vous rendez dans un lieu public. La protection contre le coronavirus n'est efficace que si vous portez correctement votre masque facial. Gardez le masque sur votre nez, votre bouche et votre menton. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de trou à travers lequel les gouttelettes pourraient sortir. Mettez votre masque facial lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance de sécurité entre vous et votre client ou votre collègue. Lorsque vous rendez visite, vous faites du shopping ou lorsque vous utilisez un moyen de transport public, le masque facial vous protège et protège les autres des gouttelettes respiratoires que vous produisez en parlant, en toussant ou en éternuant. Lorsqu'un masque facial n'est pas utilisé, conservez-le dans un sac à main scellé. Remplacez le masque jetable et lavez le masque réutilisable avec de l'eau chaude et du savon. Frottez pendant au moins 20 secondes. Séchez et repassez-les tous les jours. N'oubliez pas que nous ne mettons pas le masque facial pour éviter d'être interpellé par les agents de la sécurité, mais pour nous protéger, nous, notre famille et notre communauté contre la pandémie de COVID-19. Le coronavirus est réel. Protégez-vous.
Lave les mains, ne te fatigue pas.
Lorsque l'OMS commence à lancer les signaux d'alerte sur les dangers de cette nouvelle maladie et en fait des dégâts en Chine pendant quelques mois, les populations camerounaises ne mesurent pas l'ampleur de la situation. Et lorsque les premiers cas sont enregistrés et que sur les chaînes de télévision locales, les réseaux sociaux, la communication autour du nombre de cas et de morts victimes du coronavirus est accentuée, un vent de peur et de panique s'installe. Monsieur Jean-Mérimée Ntamack, sociologue, nous donne son avis sur l'impact que les mécanismes de communication mis en œuvre ont eu sur le comportement des populations.
Monsieur Ntamack, vous êtes un petit peu comme tous les Camerounais au courant de cette pandémie aujourd'hui qui progressivement non seulement fait ses ravages mais progressivement a tendance à revenir. Parlons un petit peu de la gestion de l'information liée à cette pandémie. On a les réseaux sociaux, les différentes chaînes d'information qui en boucle pendant des mois ont véhiculé un petit peu des scénarios de catastrophe en présentant des décès, en présentant parfois une augmentation progressive des cas avec les confinements. Avez-vous le sentiment justement que cette information a été un moteur qui a contribué à susciter la peur et même cette façon de se comporter des populations?
Bon, il faut dire qu'aujourd'hui le paradigme a changé. Aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle dans les sciences politiques la médiacratie, autrement dit la dictature des médias. Et la dictature des médias est telle que ces médias inondent et à la limite nous arrose 24 heures sur 24. Et donc, ce sont ces médias qui sont porteurs de sens et de puissance. Et donc, fondamentalement, par rapport à une question comme celle de la Covid, il faut dire qu'on nous a présenté la Covid comme le VIH dans les années 2000. On nous disait VIH égale à mort. C'est la même chose qu'on a fait. Pendant les premiers moments de balbutiement du Covid, ce qu'on a valorisé, c'est le nombre de morts, les chiffres catastrophiques. On nous montrait à la télé comment les gens sont confinés. Même les villes où on était le moins soupçonné possible. On a vu des villes carrément fermées. Donc, ce sont ces informations-là qui ont été relayées sur la toile. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le taux de pénétration de la toile au Cameroun, c'est quand même 30%, et qu'en milieu urbain, nous sommes à presque 85% selon les chiffres de l'Agence nationale des télécommunications, on comprend davantage qu'effectivement, la psychose s'est installée venant du haut, venant de la toile. Et c'est ça un peu qui fait en sorte que l'impact est plus grand qu'on ne pense. Parce qu'en réalité, si ça venait du bas, ce qu'on appelle le bottom-down, c'est que l'approche est différente. Parce que le bas est essentiellement axé sur les besoins physiologiques d'ordre primaire. Or là, c'est une pandémie qui est arrivée par le haut et donc par des besoins de réalisation et porteuse d'un certain nombre de dynamiques. Parce que c'est les gens qui voyagent, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour voyager et prendre l'avion et tout ce que ça comporte. Donc je dis que ces réseaux sociaux et ces masses médias, notamment les masses médias liées au digital, ont relayé une information sans avoir fait un travail de fond. Le travail de fond était de comprendre qu'il y a des âmes sensibles qui peuvent prendre l'information au premier degré et aujourd'hui on voit des dégâts dans notre société.
Justement, on va aborder la question des dégâts tout à l'heure, mais avez-vous le sentiment que cela a été fait à dessein?
Non, je ne peux pas dire que ça a été fait à dessein parce que Nietzsche disait que la masse est idiote. Ce n'est pas pour insulter nos auditeurs, c'est pour leur faire comprendre justement qu'il y a deux dimensions. Il y a la population et il y a le peuple. Voyez? Donc, lorsqu'on associe, on agresse ces deux éléments avec un outil qui n'est pas le nôtre, parce que lorsque vous regardez les masses médias, c'est dirigé par ces lobbies. On sait qu'il y a Facebook, on sait qu'il y a Instagram, etc. Donc, si ces lobbies décident de pouvoir véhiculer une information qui sous-tend que la Covid, c'est la troisième guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui, on comprend que la troisième guerre mondiale n'était pas nucléaire, mais elle est bactériologique. Donc, si c'est ce message qu'on décide de véhiculer, on va vous faire passer ce message en boucle 24 heures sur 24. Et lorsqu'on le fait, les neurones qui ont tendance à se démultiplier vont transformer l'information et véhiculer l'information, parce que les neurones se concubinent à presque 70 mégas par seconde. Donc, si c'est fait ainsi, vous voyez qu'on a tendance à répéter ça même de manière inconsciente. Donc, je ne vais pas dire que c'est fondamentalement inconscient, parce que les lobbies qui ont les manettes de cette information l'ont fait sciemment. Mais maintenant, c'est la population qui a relayé cela de manière inconsciente. Ça, c'est ce que je peux dire sur la question.
Alors, parlons justement déjà de la réaction de la population. On a eu des gens qui ont pratiquement développé des psychoses, des personnes qui se sont retrouvées en train d'avoir peur de pratiquement tout.
Oui, bon, je dis, l'information a été partielle. Il faudrait qu'on amène les gens à comprendre que pour que la maladie à Covid s'installe, il faudrait que vous ayez présenté un certain nombre de comorbidités. Ça veut dire qu'il y a des gens qui présentent déjà un certain nombre de dysfonctionnements sur le plan psychomotrice, et c'est ça, ce dysfonctionnement-là, qui vous rend vulnérable. Or, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pourquoi je disais encore que l'information a été véhiculée comme on voulait qu'on puisse la prendre. On voulait qu'on puisse considérer la Covid comme étant la mort. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, lorsque on arrivait à des échéances un peu modérées, que tout le monde a mis un peu de l'eau dans son vin. On n'arrivait plus à l'échéance qui consistait, par exemple, à enterrer quelqu'un dans les 6 heures, à faire ceci, à les règles barrées, etc. Pour revenir et recentrer à votre question, nous dirons simplement que l'information a été prise comme elle a été diffusée. Maintenant, c'est une variable qui a joué, c'est le temps. Avec le temps, les uns et les autres ont commencé à comprendre que, en réalité, cette information, on devrait apprendre avec beaucoup de pincettes et se retourner vers d'autres sources, parce qu'il y avait un combat de laboratoire qui voulait nous présenter un certain nombre d'éléments susceptibles de réduire un peu à la question en termes d'être vulnérable. On s'est rabattu vers notre pharmacopée traditionnelle et on a eu des résultats probants. Et donc aujourd'hui, vous voyez, il y a une deuxième vague de contamination qui arrive. On appelle ça sur le plan médical la deuxième génération du virus qui arrive. Mais les impacts ne peuvent pas être comme le premier, parce qu'aujourd'hui, avec le temps, on a compris vers où se trouvent les solutions. Je préfère dire les solutions parce qu'il n'y a pas encore la solution. On a compris vers où se trouvent les solutions et on tend à les aborder.
Revenons un petit peu sur la gestion de l'information. Avez-vous le sentiment que les médias locaux ont contribué à rassurer les populations? C'est vrai, on l'a évoqué tout à l'heure, les médias occidentaux, selon les lobbies et selon justement les acteurs qui les gouvernent, ont donné une information, parfois sur la base des réseaux sociaux. Mais avez-vous le sentiment que les médias locaux ont travaillé à atténuer l'information de manière à ce qu'elle puisse justement répondre aux besoins de la population?
Lorsqu'on parle des médias locaux, on a plusieurs types de médias locaux. Chaque média a ce qu'on appelle sa ligne éditoriale. Il y a des médias qui font le copier-coller de ce qu'ils vont en Europe. Il y a des médias dits institutionnels qui savent que c'est certain nombre de lobbies, notamment l'OMS et tout ça, nous financent. Et donc le discours doit être arrondi, on doit arrondir les angles dans le discours. Il y a maintenant des médias dits populeux, à la limite populaire, qui véhiculent un message qui est proche de ce que la population voudrait entendre. Donc la lecture que je peux avoir de comment est-ce que nos médias ont traité l'information dépend de divers angles idéologiques. Mais indépendamment de comment est-ce que nos médias ont traité, je pense que le mérite revient à la population elle-même qui a allé chercher son information là où se trouvait ce qui est considéré comme la bonne information pour soi. C'est ainsi qu'on a vu par exemple certains aller chercher des recettes de nos plantes là où ils pouvaient avoir ces recettes. On peut les avoir dans certaines plateformes sur les réseaux sociaux, on pouvait les avoir par certaines émissions dans certaines télévisions. Bref, c'est la population elle-même qui a développé les propres armes pour le combat. En ce qui concerne le traitement de l'information, nous ne pouvons pas en être satisfaits parce que plusieurs de nos médias, malheureusement, font soit le populisme, soit du copier-coller.
10 mois plus tard, alors que nous sommes en train de sortir de la pandémie, alors que nous sommes en train aussi d'avoir peur justement d'amorcer une autre vague, avez-vous le sentiment que l'information est moins agressive que dans les débuts de la pandémie?
Oui, ça il faut le dire, il faut le reconnaître que nous avons une information moins alarmante, à la limite alarmiste. Nous étions habitués par exemple dans les médias institutionnels à un point chaque soir. Et à côté de ce point de chaque soir, on était habitué à des chiffres. Il y a même tout un ministre qui s'était lancé dans un nouveau job description, qui relevait de statistiques chaque soir. Donc on a vu quand même que de plus en plus, à leur niveau aussi, beaucoup de choses ont été changées. D'autre part, les médias dits classiques, on a remarqué quand même que de plus en plus, on ne nous balançait plus les images des gens qui sont décédés et qu'on a enterrés dans les moins de 6 heures plus tard. Donc, je pense que de plus en plus, en fonction de sa ligne éditoriale, les uns et les autres ont compris que, en ce qui concerne l'Afrique, parce que là je veux parler en tant que quelqu'un qui maîtrise un peu le domaine des analyses de biologie médicale, qu'il y a un certain nombre de préliminaires que nous faisons en Afrique quand une femme est enceinte. Et il y a un certain nombre de préliminaires que nous faisons pendant les 5 premières années de naissance de l'enfant. Ces préliminaires renforcent l'immunité de l'être humain, du bébé qui naît, de l'enfant qui grandit, et font en sorte que face à certains types d'adversités, nous avons des réponses spécifiques. Et c'est ça qu'on n'a pas compris du côté de l'Occident. Il y a par exemple des vaccins qu'on ne fait pas aux enfants en Occident, par exemple le vaccin de l'IBCG, on ne fait pas ça, mais ici chez nous c'est systématique. Vous voyez donc que sous les tropiques, on peut aussi avoir des réponses favorables. Mais puisque c'est un virus fabriqué dans des objectifs bien clairs, on ne peut pas valoriser cela. Et la question qu'on doit pouvoir se poser, c'est est-ce qu'on a des dirigeants qui s'occupent de notre santé ou alors qui respectent des engagements vis-à-vis de leurs patrons qui sont à l'extérieur? Et c'est l'occasion pour nous ici d'appeler la société civile à jouer effectivement son rôle. Son rôle, c'est un rôle d'éveil. Il n'est pas prudent d'avoir toujours des conversations accessoires pour bien monter quand toi descendu. C'est pas ça qui va faire changer la vie des Camerounais. Ce qui fait changer la vie des Camerounais, c'est ce qui a un impact direct dans notre vie. Et ce qui a un impact direct dans notre vie, c'est deux choses. L'économie, d'une part, parce que le panier de la ménagère tend à se rétrécir de plus en plus, et de l'autre part, la santé.
Nous allons sortir de cet entretien en parlant un petit peu de ce que je pourrais appeler, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la médecine naturelle. Médecine naturelle, celle qui est devenue un petit peu l'élément central de cette lutte contre la Covid. Est-ce que jusqu'à présent, malgré ce qu'elle produit comme résultat, nos médias ou alors les différents supports de communication travaillent à la valoriser?
Je dis non et je suis péremptoire dans ce que je dis. Maintenant, je veux parler comme enseignant d'université. Si vous arrivez à l'université que je maîtrise le plus, l'université de Douala, faculté de sciences, il y a un département de pharmacopée traditionnelle africaine. Et chaque année, on a des mémoires de master qui sont soutenus, des mémoires de recherche qui sont soutenus sur la puissance de notre pharmacopée, mais ce n'est pas valorisé. En réalité, on a vu comment un président malgache a valorisé leur pharmacopée et quelques instants plus tard, tous les Africains étaient prêts à envoyer des avions là-bas pour aller chercher un produit que nous tous nous avons ici. Ça veut dire que, de manière triviale, pour que nos auditeurs comprennent, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Donc, la dynamique doit être impulsée par le haut. C'est là la faute grave. Nous avons tout. ici chez nous. Mais ce n'est pas valorisé. On nous présente un ministère de la recherche qui nous valorise l'ACNIM et nous dit plutôt que les enfants de l'ACNIM doivent venir de la Chine. Vous comprenez qu'au 21e siècle, raisonner encore comme ça, vraiment, nous sommes et nous resterons toujours à la traîne. Il est important aujourd'hui, et ça c'est un cri d'alerte qu'on peut envoyer, qu'on puisse consulter les experts qui existent mais qui sont marginalisés. Donc pour ma part, et sous sortie du sujet, je dirais que la pharmacopée camerounaise est très très riche, mais elle doit être valorisée. Et pour qu'elle soit valorisée, il faudrait que ça passe par le haut. Seul le haut peut donner le ton, parce que si le président de la République vient à un journal de 17h et annonce quelque chose dans ce sens, vous allez voir comment ça va bousculer dans tous les chemins. Si le ministre de la Santé vient et met de côté les peurs d'être frappé par certaines officines qui viennent de l'autre côté, suivez mon regard, et évoque cela, vous allez voir la dynamique que ça va prendre. On a vu quelqu'un de la société civile, à l'occurrence l'archevêque métropolitain de Douala, donner le ton. Et il fallait aller. Moi, j'ai fait un tour en tant que sociologue, je tournais. Vous allez voir que ces mêmes-là, ces mêmes grands hommes et tout, qui sont dans les médias, qui nous parlent des remèdes, des quinines, etc., c'est les mêmes qui s'alignaient chaque matin pour attendre le produit de Monseigneur Clédat. Donc, il y a une dichotomie dans le discours. Et tant qu'on veut jouer au chat à la souris, malheureusement, on sera toujours dans ce que Charles Teba a appelé là d'être hors sujet.
COVID-19 ni nambale, nde moto ena asambamo, nde na wengele pebane tenge nedindi buwa. Poto ne buam, nabatuba pepe, nikanye eyeka muinya. Nyangise, bitanele, nabatube nabatiti ombu wango. Sambama muti na uma kotome la jitala batu. Yete na wangamene uwala uuma muinya, boto ekenga na mpemba na mundumbu, oponda uuma tungeno ongea. Ibanja na batobe na batombise uwaziboa, obia na bama bia na bama boa. Ye muinya uboto ekenga na mpemba na mundumbu, oponda uuma topono, jose ya tosime. Samba sokane laba dunba bato, na chokane laba na maluku, opem. Potonele na lunyangise kasiala diboa. Osidime ya obupe maliyama badie zibanyu ba madokita. Onyula pula labi ya tonjende onyula COVID-19 bele oye bela nomba. Dom na betano, dom.
Vous écoutez votre émission Coronavirus et les communautés. Et dans le cadre de notre édition de ce jour, nous parlons de la gestion de l'information autour de cette grande crise sanitaire. Qualifié de pandémie par l'OMS, le coronavirus est une crise sanitaire qui a surpris toute la planète. Et comme dans toutes les crises, le défi majeur à relever est celui de la gestion de l'information. Car dans des délais assez réduits et avec le maximum de détails, il faut faire parvenir à la population la bonne information. Et lorsque celle-ci est absente ou qu'elle tarde à venir, elle laisse libre cours à la rumeur, lançant les populations à la quête d'une information parfois vers des sources moins fiables, entraînant ainsi des conséquences fâcheuses et même irréversibles. L'accès facile à l'information via les réseaux sociaux pendant cette crise a créé une variable qui a échappé au contrôle de la plupart des professionnels de la communication. Comment apprécier la communication gouvernementale de l'entrée jusqu'à la progression vers le pic du coronavirus dans notre nation? Quel rôle les réseaux sociaux ont-ils joué dans la gestion de l'information autour du coronavirus? Ont-ils été un vecteur de peur ou une source d'information qui a rassuré? Et les médias locaux ont-ils aidé à véhiculer la bonne information? Monsieur Charles Nga Fongan, journaliste, porte-parole du Syndicat national des journalistes camerounais, mais également enseignant d'université, nous donne son avis sur la question.
Monsieur Charles Fongan, la manière dont l'information sur la COVID-19 a été présentée par les médias a contribué à rassurer ou à susciter la peur dans les cœurs des populations.
Oui, et il faut tout d'abord noter que la communication sur la pandémie à coronavirus rentre dans le cadre de la communication de crise. C'est-à-dire que cela n'avait pas été pensé à l'avance et voilà que tout d'un coup, le pays tout entier fait face à la pandémie. Donc c'est une communication qui, dans le cas d'espèce, est une communication publique, car en ce qui concerne la santé, santé, il revient ici au pouvoir public de mener véritablement la BAC. Et la communication de crise a ceci de ce que elle se fait par dose homéopathique, c'est-à-dire qu'on va tout doucement, par étapes, et en fonction de la progression du mal, on met les bouchées doubles. Et dans le cas d'espèce, moi j'ai envie de dire que sur le plan de la communication publique, le Cameroun a là véritablement réussi. Pourquoi? Après que les premiers cas ont été circonscrits annoncés à l'étranger, on a fait savoir aux Camerounais, à travers les canaux conventionnels, qu'il y avait une pandémie qui existait. Mais quand on a décidé de fermer les frontières, il y a quand même une véritable communication qui a été faite tout autour, qui était une communication suffisamment mesurée à travers les médias traditionnels que sont la presse écrite, la radio, la télévision et l'internet. Mais il se trouve donc qu'à côté de ces médias traditionnels qui peuvent être contrôlés, il y a aujourd'hui d'autres supports de communication qui malheureusement sont comptes parmi les plus prisés par les Camerounais, qui se sont également lancés dans la danse. Donc, on peut dire que sur le plan de la communication publique, la communication initiée par le gouvernement avec tous ceux qui l'accompagnent, voilà, la communication initiée par le gouvernement avec tous ceux qui sont censés l'accompagner, les différents acteurs, on peut dire qu'on a vraiment respecté les canons. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a une communication qui était suffisamment mesurée, les médias ont été mis à contribution, les médias également ont développé des échanges d'antennes où des experts étaient invités à chaque fois pour venir parler de la maladie. Donc, on peut dire que sur le plan de l'organisation, les choses sont bien passées. Mais, comme je l'ai dit, il y a des médias, des supports de communication qui sont contrôlés et contrôlables. Il y en a qui ne le sont pas. Et c'est à ce niveau-là que, véritablement, il y a eu des sérieux problèmes.
On a quand même eu un afflux des populations vers les réseaux sociaux, c'est-à-dire on voyait un petit peu et on a constaté que la plupart des informations qu'on recevait, par exemple, autour de la pandémie, c'était des informations liées au nombre de décès. N'avez-vous pas aussi l'impression, par exemple, au niveau de la communication gouvernementale qui a été initiée, chaque soir on faisait un point où on présentait le nombre de morts, le nombre de cas atteints. Avez-vous le sentiment que ces éléments ont contribué à susciter un sentiment de peur dans le cœur des populations?
Oui. Voyez-vous, effectivement, la communication avait aussi cet objectif-là. C'est-à-dire, quand vous décidez à chaque fois d'énumérer le nombre de morts, cela a également un effet beaucoup plus dissuasif. L'objectif, c'est de faire peur aux gens. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'une réalité et que voilà qu'il y en a qui vont, qui passent de vie à trépas. Donc, aussi, la façon par laquelle les gens étaient enterrés était de nature à susciter également la peur auprès des populations. Mais c'est une peur qui leur aurait amené plutôt à mieux se comporter et pas le contraire. Donc, la communication gouvernementale jusqu'à ce moment-là a été bien pensée. Et à un moment, il y a eu sûrement une évaluation. Et les pouvoirs publics ont dit que cela créait un peu plus de psychose que cela a été pensé. Alors, on a décidé maintenant de ne plus forcément donner ces informations-là tous les jours, voyez-vous. Et ensuite, on a décidé de ne pas forcément parler des morts tout le temps. Parce qu'on s'est rendu compte que ça a créé une véritable psychose. Et que toute personne qui mourrait pas d'une maladie qui n'avait rien à voir avec la COVID-19, et cela a été interprété comme un mort de COVID-19. Donc, avec tout ce qui entourait, on voit donc qu'on a évalué la communication et on a un peu changé la façon de communiquer, qui pour moi était aussi une réussite parce qu'on a vu beaucoup de Camerounais qui ont dénoncé cette façon de faire, qui ont estimé que on est arrivé à un seuil critique et que l'État cachait bien les choses. Je dis encore, c'était qu'on était arrivé à un seuil critique et qu'il fallait cacher les choses. Parfois, cela fait partie de la communication. Il y a des situations de crise où il y a un type d'information qu'il faille cacher. Donc, si même cela avait été le cas, pour moi, je dis que cela avait été très bien pensé. Mais il y a un deuxième volet qui est clair, que j'ai dit. Il y a aujourd'hui les supports de communication qui ne sont pas maîtrisables, notamment les réseaux sociaux. Il se trouve, et ça, il faut le regretter. C'est pour ça que je pense qu'au Cameroun, il faut une éducation aux médias. Il faut que les Camerounais soient éduqués aujourd'hui à ce qui concerne les médias, les dangers des médias. Il faut une véritable éducation. Pourquoi? Il se trouve donc que beaucoup de personnes ont investi les réseaux sociaux et ont propagé un ensemble d'informations qui assez souvent étaient erronées. Vous savez que 80% des informations qui passent par les réseaux sociaux, c'est des fakes, comme on dit, c'est des fausses informations. On s'est donc rendu compte dans cette réalité-là où véritablement il y a eu une flopée d'informations qui a circulé. Et dans cette flopée-là, il faut noter qu'au moins 80% de tout ce qui y passait était faux. Malheureusement pour nous, ça, il faut encore le regretter. Comme j'ai dit, les Camerounais n'étant pas encore éduqués à ces médias, ces nouveaux médias, aujourd'hui, assez souvent, croient encore plus de crédit en ceci. Cela vient remettre même en cause tout le travail qui avait été fait dans le cadre de la communication publique. Donc, on sait retrouver cette situation-là. Autre chose, c'est que les médias, dans l'ensemble, ça, il faut le reconnaître, les journalistes camerounais ont joué un rôle important, ont abondamment contribué contribuer au recul de la maladie. Voyez-vous, les différentes stations de télévision et de radio, dans la presse écrite, on a vu que les médias ont aménagé des espaces spécialement dédiés à la COVID-19. Vous aviez des spécialistes qui venaient expliquer ce que c'est. Vous avez également des spots qui ont été montés, même par les médias, montés par les hommes d'affaires qui ont décidé d'accompagner cela, en sollicitant également des espaces médiatiques pour passer tout cela. Tout cela a véritablement contribué. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on a été loin de l'hécatombe, il faut quand même noter qu'il y a quand même un travail qui a été fait, non pas seulement par le gouvernement, mais par la communauté nationale, notamment les hommes d'affaires, les médias, les Camerounais de bonne volonté, les ONG, pour faire reculer véritablement la maladie. Sur ce plan-là, il faut tirer le coup de chapeau à ceux qui ont contribué. Mais comme j'ai dit, toute médaille ayant un revers, le revers a été que les réseaux sociaux, à un moment, ont véritablement voulu consécuter tout l'effort qui a été fait.
Alors vous parlez des réseaux sociaux, et vous avez dit que c'est un petit peu la variable qui est incontrôlable, mais est-ce que justement les populations ne se sont pas retrouvées à rechercher absolument les informations à travers les réseaux sociaux parce qu'ils avaient le sentiment que les médias ordinaires justement ne leur fournissaient pas la bonne information?
Oui, en fait c'est ce que je disais, qu'il faut une éducation aux médias parce que jusqu'à présent les seuls supports médiatiques qui distillent une information plus ou moins crédible, c'est les médias traditionnels. Donc, c'est-à-dire c'est la presse écrite, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les... ceux qui travaillent ont été formés et travaillent les canons conventionnels. Il y a des règles professionnelles qui respectent. Parce que ces médias-là évoluent dans un contexte qui est régi par les lois de la République, qui régissent la pratique, parce que ces médias évoluent dans le cadre, respectent une certaine éthique, une certaine déontologie qui est propre à la profession de journaliste. Donc, on peut tout dire, c'est que cette éducation aux médias qui manque à ces Camerounais, qui à un moment n'ont pas accordé suffisamment de crédit à ces médias. Il faut aussi noter que, d'une part, assez souvent, ces médias-là dérapent, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aussi crédibles aux yeux de la population. Oui, il y a une crise de confiance. Donc, on peut donc comprendre que, du fait de cette crise-là, que les gens se rabattent sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que vraiment, les réseaux sociaux comparés aux médias traditionnels, quels que soient les manquements qu'on peut attribuer à ces médias traditionnels-là, vraiment, c'est... je crois que s'il y a un conseil à de nos gens, il faut les orienter vers ces médias traditionnels-là. Mais dans les réseaux sociaux, ont également leur rôle, mais comme je dis, comme ils sont totalement incontrôlables, comme ceux qui distillent les informations par ces plateformes-là n'ont pas été formés, comme ils ne répondent à aucune éthique, comme il n'y a pas eu certaines chartes qui régit les comportements des gens qui travaillent ou qui ont accès, il est difficile vraiment de s'abreuver aux sources de ce type de support médiatique. Mais il n'en devrait pas moins que, assez déjà, j'ai dit 80%, donc on a quand même 20% d'informations qui peuvent aider, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'il faut se méfier, il faut moins s'en méfier.
Parlons un petit peu de la psychose, de cette peur qui a été suscitée, que ce soit par l'ignorance due au fait qu'on n'avait pas la bonne information ou alors qu'on n'accordait pas suffisamment de crédit à l'information véhiculée par les médias conventionnels, mais aussi par cette quête permanente d'information vers les réseaux sociaux. On a quand même constaté que ce soit les médias internationaux qui communiquaient autour de cette crise, on parlait plus de morts, que ce soit en Italie, en France, aux États-Unis. On a même eu des rapports des organisations telles que l'OMS qui projectaient une sorte d'hécatombe en Afrique. Est-ce que tous ces éléments, justement, ces vecteurs, ces informations véhiculées par les médias n'ont pas quand même aidé à entretenir un climat de peur? Parce qu'on a eu, il faut le reconnaître, des personnes qui ont développé une sorte de psychose, qui avaient de la peine à sortir de leur maison, qui se retrouvaient un peu dans une sorte de peur absolue parce qu'on se disait le virus est un petit peu partout. Est-ce que justement tout ce flux d'informations et la gestion de ce flux d'informations n'ont pas aidé à entretenir un certain climat de peur?
Mais effectivement, je vous ai dit à l'entame de cet échange qu'on était en plein dans une communication de crise. La communication de crise, c'est vrai qu'on a souvent les scénarios qu'on prépare à l'avance, mais on ne peut pas mesurer la gravité. Surtout que c'est une pandémie qui arrive comme un cheveu dans la soupe. On n'y était pas préparé. Donc, sur ce, effectivement, ce qu'on s'en tient aux informations qui ont été distillées ou diffusées par l'OMS, qui prévoyait normalement une hécatombe en Afrique, mais c'était à dessein, effectivement, parce que le système de santé en Afrique étant fragile, également aussi que les personnes n'étant pas assez regardant sur les règles d'hygiène, il était normal, donc les arguments avancés par l'OMS tenaient. tenait le coup. Mais peut-être que le MENAM, dans tenu compte de la spécificité du continent africain, de son climat, de la qualité de sa population, qui est une population totalement jeune. Donc peut-être qu'il y a des variables comme ça qui n'avaient pas été prises en compte. Mais je n'ai pas envie de croire que l'OMS a fait ce qu'il fallait faire. L'OMS a été suffisamment prudent et a pris véritablement le taureau par les cornes. Il était normal parce que au vu des réalités africaines, il était normal qu'on puisse prévoir une véritable hécatombe en Afrique. Maintenant, pour ce qui est de la communication sur les morts, comme j'ai dit tantôt, la communiquer sur les morts, même dans ce pays, dans le cadre de la communication sociale, assez souvent, on a pu se lever là. Vous avez vu l'un des axes qui mènent de l'erreur routier. À un moment, on communiquait sur le nombre de morts. Ici, 3 morts. Là, 32 morts. Parce que quand vous êtes au volant d'un véhicule, dans un véhicule, quand vous voyez ces plaques, ça renvoie à quelque chose. Ça vous fait penser peut-être à l'excès de vitesse, à une imprudence et tout. Et quand, si cela vous rappelle cet ensemble de choses-là, alors automatiquement, vous avez envie de ralentir, d'y mettre la prudence. Vous voyez. Donc, c'est un mot de communication qui, par le passé, a souvent porté ses fruits. Donc, ceux qui ont décidé de l'utiliser, la preuve, jusqu'aujourd'hui en Europe, on l'a conservé. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est un bon moyen de communication. Jusqu'aujourd'hui, on commence à communiquer. On continue à communiquer sur les morts, que ce soit en France, en Italie, un peu partout. Pourquoi ? Parce que cela contribue quand même. Ça crée la psychose que vous avez dit, mais au moins ça pousse quand même à la retenue. Ça pousse les gens à plus de responsabilités. Donc communiquer sur les morts, ce n'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, ceux qui ont exploité cela, comme je disais, il n'y a pas une véritable éducation aux médias. On a exploité cela, mais on n'a pas pris cela. C'est-à-dire que peut-être que ça a eu un effet boomerang. C'est-à-dire que alors qu'on attendait que les gens prennent davantage conscience, aient peur, on s'est rendu comme ça un peu de crime, psychose, où les gens, au-delà de respecter les règles barrières, ont même encore décidé de ne plus sortir, de fermer leur portail même aux voisins. Cela a remis en cause la solidarité africaine. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est un peu remis en cause la solidarité africaine. Donc là, il y a une véritable psychose, mais une psychose qui est aussi justifiée, hein, qui est justifiée à juste titre, parce que si vous voyez vraiment, si vous avez vos soucis, toutes ces informations qui étaient distillées là, vous comprenez qu'il était normal qu'on puisse avoir cette psychose-là.
Parlons un petit peu de la communication autour du vaccin. On a vu sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, des personnes qui se sont levées contre la mise en œuvre d'un vaccin, contre l'utilisation d'un vaccin. Et aujourd'hui, des laboratoires sont en train de proposer des vaccins. N'avez-vous pas peur justement que la communication engagée dans les réseaux sociaux ait un effet inverse dans la mise en œuvre et même la distribution et l'utilisation de ce vaccin?
Oui. Voyez-vous, les vaccins, c'est un peu comme les médicaments. Il y a un process, il y a un ensemble de tests qu'il faut faire. Un peu, il faut que la communauté de chercheurs valide que ce vaccin-là a droit de citer, qu'il a des vertus et qu'il peut être utilisé. Donc on est dans cette dynamique. Et quand on est dans cette dynamique-là, il ne faut pas brûler les étapes. Vraiment, il y a des étapes qu'il faut nous respecter. Mais on s'est rendu compte que parfois, par effet d'annonce ou peut-être pour des raisons parfois inavouées, des gens annonçaient qu'ils sont à tel niveau alors qu'on n'en était pas question. Le grand gendarme qui est dans l'OMS s'organisait à chaque fois pour dire non, on n'en est pas encore là, parce qu'il fallait que on puisse arriver au niveau de la validation par la comité des chercheurs, par l'OMS, avant de dire qu'il y a un vaccin. Mais on s'est rendu compte que parfois les laboratoires ou soit les pays organisaient des fuites d'informations, sûrement à dessein peut-être pour déstabiliser l'autre camp, l'autre laboratoire qui est également en train de travailler sur des vaccins. Voyez-vous, il y a toujours cette guerre là.
Est-ce que justement cette campagne n'a pas plutôt travaillé contre la mise en œuvre et même l'utilisation d'un vaccin auprès des populations?
Oui, j'y arrive. J'ai dit donc dans ce milieu là, la population dans tout cela. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas forcément concernés dans ce jeu de grands-là sont un peu pris au piège et se posent beaucoup de questions. Au final, est-ce que c'est véritablement un vaccin? Est-ce que c'est un vaccin qui sera utile? Est-ce qu'il ne va pas tuer les enfants? Est-ce qu'il va porter? Mais au final, moi je vous dis, c'est ceux qui n'ont pas une véritable éducation aux médias. C'est dans les pays occidentaux et tout, le vaccin passera comme une lettre à la poste. Moi j'ai vu les dernières communications, c'est de montrer que les vaccins sont de qualité. Qu'aujourd'hui, j'ai vu encore suivi hier, ces vaccins peuvent être conservés et utilisés sur une période beaucoup plus longue. Du coup, cela peut permettre d'être utilisé sur une grande communauté, sur plusieurs personnes à la fois. Voyez. Donc aujourd'hui, la communication montre que ces vaccins-là sont de qualité. Mais il se trouve, si on rentre dans le cas du Cameroun, que on a déjà, on a été habitué au Cameroun à avoir des doutes sur les vaccins. Notamment, vous avez vu, il y a un vaccin qui est annoncé dans ces écoles où, alors qu'en Europe, les gens ont spontanément accepté, beaucoup de gens se sont prêtés au jeu au Cameroun et il y a des gens qui doutent encore. Donc on est un peu dans cette situation là où il faut que les gens comprennent que à un moment, il faut se prêter à ce jeu-là, car aucun pays, ça, aucun État au monde ne peut vouloir la paix de sa population. Parce qu'il faut qu'on on peut le dire. C'est vrai que assez souvent, on peut se servir d'une partie de la population, mais pas de la population. On ne peut pas vouloir décimer la population. Donc si les États, ceux qui nous gouvernent, parce que l'État c'est d'abord nous, si ceux qui ont la latitude de prendre des décisions, allant dans ce sens-là, on peut être certes méfiant, mais j'ai envie de dire ici qu'aucun État ne peut vouloir décimer sa population par un vaccin. On peut avoir un vaccin et il y a des effets secondaires inattendus, parce que vous voyez, ces choses-là, parfois, on ne contrôle pas tout. Mais dire qu'on le savait, on a décidé d'y aller, assez souvent, c'est pas toujours cela. Maintenant, nous autres qui avons déjà développé des résistances, sans forcément passer au vaccin, est-ce qu'on nous aurons, nous, les Africains, les Camerounais, aurions forcément besoin de ces vaccins-là? Peut-être que nous, qui sommes déjà résistants, en se faisant inoculer ces vaccins-là, on pourrait peut-être perdre ces facultés-là, cette immunité naturelle que nous avions. Donc, il faudrait qu'on voie encore ce quoi. Pour nous, ce n'est pas aussi urgent. Important que pour les Occidentaux.
De la nécessité justement de mettre en œuvre une bonne communication autour des vaccins.
Oui, je crois, parce que là aussi, il faut continuer. Déjà qu'il y a une psychose qui est engagée au niveau africain, surtout camerounais, qu'on voit avec ce vaccin sur le col de l'utérus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux de la communication sociale. La communication sociale, c'est ce qu'elle est. Elle est lente, elle est progressive, parce qu'elle surfe sur le changement de comportement, le changement des habitudes. Or, il est difficile quand même de changer les habitudes. Donc, les habitudes, parfois, on dit qu'elles ont la poudre. Et donc difficile. Donc, puisqu'elles surfent, il faut donc qu'on mette davantage leur sang, hein, et que ce qui est fait par les ONG, par les élites au niveau micro, qu'on puisse également s'appuyer là-dessus là, pour faire passer directement le message. Parce que tout ce qui passe à la télé, par les gouvernants, les gens ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose de caché derrière. Donc, il est temps que nous-mêmes nous intégrons que les vaccins ne sont pas toujours une mauvaise chose. Même si je pense, en ce qui me concerne, que nous ne devons pas embrasser ce vaccin sur la COVID-19, parce que nous avons eu la chance de développer des résistances. Et j'ai bien peur, je sais, parce que la prise de ce vaccin-là pourrait avoir comme conséquence sur notre immunité qu'on peut considérer comme naturelle.
Alors, on va finir en parlant un petit peu de la stratégie de communication autour de la sensibilisation. On a énormément, vous l'avez évoqué, communiqué sur la maladie, ses dégâts, ses conséquences. On a parlé du nombre de morts. Est-ce qu'on communique autant justement sur les mesures barrières, mais également sur les possibilités de traitement? On a eu beaucoup de traitements qui ont été proposés. On a des personnes qui ont consommé de l'ail, consommé du dolet, consommé... En fait, est-ce qu'on a suffisamment communiqué autour des possibilités de traitement? Parce qu'on a le sentiment qu'on a plus parlé des dangers que des possibilités de traitement. Parce qu'en Afrique, quand même, on a eu cette possibilité de traitement, contrairement à certains pays. Et même, il y a un protocole qui a été validé par plusieurs États. Est-ce qu'on a suffisamment justement communiquer sur ces procédures de traitement? Est-ce que les populations sont suffisamment informées, sont suffisamment sensibilisées?
Oui, moi j'ai abondamment apprécié la communication qui a été faite par le gouvernement, la convention publique autour de la COVID-19. Voyez-vous, pour communiquer, les traitements doivent également être validés par l'OMS. Et donc, il faut être suffisamment prudent. Et les pays qui ont voulu ce bonbon de torse, vous avez vu, ont vu que assez souvent qu'ils annonçaient certains traitements, notamment certains pays africains, ils étaient combattus, comme Madagascar par exemple, ils étaient combattus. Mais au Cameroun, on a été suffisamment prudent. Il y a eu beaucoup de traitements qui ont été utilisés, parfois validés. Pas officiellement, mais officieusement par les pouvoirs publics. C'est encore le jour, vous avez vu le diocèse, l'archevêque de Douala, Monseigneur Péda, vous n'avez jamais vu, il avait le loisir de faire toute la communication, de donner même, d'indiquer tout. Jamais le gouvernement ne s'en est offusqué. Donc, on peut dire qu'il y a une communication, à moins que vous attendiez la communication vienne du gouvernement, mais il y a eu toute une communication autour des traitements. Vous avez vu, aucun média n'a été sanctionné parce qu'il a fait une communication sur quel type de traitement. Personne n'a été sanctionné. Donc, en fait, on a laissé libre cours à ce type de communication, mais cela ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre de la communication publique. Une communication gouvernementale, on est dans l'été là, mais il y a une communication.
En fait, l'État a joué la carte de la prudence.
La carte de la prudence, effectivement, parce que sachant que si vous levez trop, vous avez une épée de Damoclès, votre tête qui est l'OMS, si vous levez trop, la tête pourrait être tranchée. Donc on a su jouer à la prudence. Pour nous, c'est une réussite, parce que les gens ont dit, ailleurs, on a célébré. Vous avez vu qu'il y a des Camerounais qui ont même appuyé la production de ces traitements, notamment Jean-Pierre Mugu Belinga qui a offert 50 millions à la cheville pour en produire. Mais vous n'avez pas vu, personne n'a été attaqué. Vous avez très bien. Donc, le gouvernement camerounais a su comment manager cela et cela a été une réussite. Il s'est tout simplement cassé souvent, les gens et le Chine toujours un peu à saluer l'action gouvernementale, mais il y a des choses qui se font dans ce pays et qui sont applaudies. Sur ce plan-là, on a véritablement, je dis qu'on a abondamment communiqué ces méthodes-là. Il n'y a pas un seul Camerounais qui n'ait pas une idée sur une position qu'on puisse prendre contre la COVID-19. Ça, je dis que le message est passé. Il n'y a pas un seul Camerounais. Et en ce moment, en ce niveau-là aussi, les réseaux sociaux, comme il dit qu'il y a quand même 20% de positifs là-dedans, les 20% étaient vraiment positifs à ce niveau-là. Vous avez vu qu'on a abondamment partagé, on a abondamment discuté, communiqué sur les traitements. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de l'OMS, sinon on va se faire taper dessus, et c'est normal.
Nous allons vous dire merci pour tous ces éléments de réponse qui nous ont certainement aidé à répondre à cette préoccupation liée à la communication autour de cette pandémie, et on peut retenir que pour ce qui est de la communication gouvernementale, un certain nombre d'actions ont été menées, surtout avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de prudence également, mais malheureusement les réseaux sociaux en tant que facteur de communication pas toujours maîtrisé par les différents acteurs, cette plateforme a à sa manière contribué à créer davantage de psychose et de peur dans les cœurs des populations. Mais vous l'avez également évoqué, dans une certaine mesure, que ce soit les ONG, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs de la communication, on s'est battu pour sensibiliser au maximum les populations autour de cette pandémie. Alors que nous sortons de cet entretien, vous en tant que communicateur, quel est le message que vous pouvez donner, que ce soit à vos confrères, mais également aux différents acteurs de la chaîne de communication autour de cette maladie, mais surtout sur comment s'organiser pour la gestion de la communication en temps de crise?
Oui, moi déjà je dirais que sans qu'on y ait une organisation particulière, les acteurs de la communication ont brillé, ils ont brillé quand même par une contribution louable pour faire reculer la pandémie au Cameroun. Donc nous souhaitons seulement qu'à l'avenir, qu'ils puissent toujours se mobiliser de la sorte, mais toujours tenir compte du fait que c'est des sujets délicats dont les seules personnes qui ont droit à la parole, c'est les personnes assermentées, c'est les personnes qui ont une certaine expertise. Ne pas toujours ouvrir l'antenne, donner l'opportunité à des personnes dont la qualification est discutable pour venir parler des sujets aussi sensibles. Donc à chaque fois, bien sélectionner les acteurs qui vont venir accompagner dans cette communication-là. Et aussi, je dirais qu'il ne faut pas seulement se limiter à cette pandémie, parce que ce qu'on a fait a été remarquable. Il faut également qu'on puisse voir la même énergie se développer pour des maladies comme le paludisme qui décime des millions d'Africains tous les ans. Donc on veut également voir cette mobilisation autour des méthodes de prévention par rapport à ces maladies là. On a vu ce qui se passe aussi avec le sida, mais aujourd'hui il y a des maladies qui tuent, il y a l'hypertension qui est là, il y a le diabète. Je crois qu'aujourd'hui on souhaiterait avoir cette même mobilisation là pour ces autres maladies là. Et aussi la COVID n'est pas encore derrière nous. Nous sommes encore en pleine pandémie de COVID et dans les pays occidentaux on apprend même que il y a de nouvelles vagues qui arrivent. Je crois qu'on doit être prudent. Donc les médias doivent continuer à sensibiliser les gens sur les mesures barrières, parce qu'ils pensent que pour le moment, nous ne savons pas comment on a pu résister, mais continuer la sensibilisation sur les mesures barrières. Et les gouvernements doivent comprendre que les médias, les acteurs sociaux sont des véritables partenaires. Donc il faudra toujours associer ces acteurs-là, notamment les médias, fussent-ils du privé, pour toute communication gouvernement, communication publique. Si tant est que il faut payer, il faut également que ceux-là également reçoivent quelque chose pour survivre. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ont fait du sacerdoce, beaucoup ont travaillé pour rien, alors qu'au niveau gouvernemental, il y avait quand même des budgets. Donc ces budgets-là, il faut quand même penser quand même à les distribuer à ceux qui travaillent. J'avais dit que les médias privés, les ONG, beaucoup d'autres organisations ont abondamment contribué. Si tant est qu'on peut les gratifier, les accompagner, que l'État n'hésite pas.
C'est une catastrophe sanitaire qui est en train de se dérouler en Équateur, dans la ville de Guayaquil. Des dizaines de corps sans vie, probablement frappés par le coronavirus, sont tous les jours retirés des habitations et emmenés dans des morgues à ciel ouvert.
Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie.
à la une de ce journal, une semaine après l'annonce de la stratégie de riposte gouvernementale contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Certaines mesures gouvernementales sont loin d'être appliquées. Les sensibilisations de proximité sont quasi inexistantes dans les villes qui enregistrent le nombre le plus élevé de cas positifs du Covid-19.
L'épidémie Covid-19 souffle de plus en plus fort au Cameroun. Ce vent ravageur a poussé le Premier ministre à convoquer une réunion de crise à l'immeuble Étoile ce mardi à Yaoundé. Parmi les points à l'ordre du jour, les 5 nouveaux cas confirmés sur le territoire national.
Le coronavirus, le virus de la peur. Loin d'être un slogan, c'est le sentiment qui a hanté la plupart des citoyens du monde et du Cameroun en particulier. Car on n'a jamais autant communiqué autour de la mort comme dans cette période. Point quotidien sur le nombre des décès, images de cercueils entassés en masse, hôpitaux et morgues débordés, enterrements à la hâte sans dignité, tout ce flot d'informations macabres malheureusement a contribué à créer la psychose, donnant parfois naissance à une grande dépression. Grâce, une auditrice que nous avons rencontrée nous partage son expérience. Lorsque la pandémie survient, vous êtes comme tout le monde, vous avez d'abord les premières informations. Et comment est-ce que vous réagissez?
Ben, tout simplement, quand j'ai appris la nouvelle de la venue de cette maladie, c'était par les réseaux sociaux, ensuite par le biais des informations à la télévision, des journaux, et même sur le plan international, je suivais toutes les chaînes de télévision pour en savoir un peu plus. Et je me suis rendu compte à la longue, en fait, avec toutes ces informations que je recevais, on montrait, on criblait vraiment la population avec tellement des images très choquantes. Il y avait des pays où on alignait pratiquement des cercueils et il y avait d'autres où on montrait des malades qui affluaient au point où il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Il y avait donc ça a créé en moi cette phobie. Je ne sais pas si je vais appeler ça la psychose, mais vraiment c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Ce n'est pas que je n'avais jamais été confrontée à des situations, mais celle-là était vraiment pour moi une expérience très 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 exceptionnelle que je n'avais jamais vécue.
En fait, ce n'est pas le fait de savoir qu'il y a une maladie qui vous a causé problème, mais c'est beaucoup plus la manière dont l'information autour de la maladie a été gérée. On a plus présenter la mort.
Tout à fait, tout à fait. C'est cet aspect de l'information que j'ai pu retenir quand je suivais toutes ces nouvelles. Ça a plutôt laissé en moi un esprit de peur. C'était comme si avant je n'avais jamais été consciente que la mort existait. Mais là, c'est que je vivais la mort. À n'importe quel moment de la journée, j'avais toujours ces pensées, cette vision, ces images qui me rappelaient tout le temps la mort. Je voyais la mort tout autour de moi. Donc ça a causé en moi justement ce stress énorme, cette phobie, cette psychose, au point où je me demandais, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais plus. Et étant donné que je vivais seul en ce moment avec les enfants, mon conjoint n'était pas là, donc c'était un peu difficile pour moi de pouvoir communiquer, de pouvoir en parler. Donc j'étais confrontée à cette situation seule avec les enfants, et ça vraiment... Je me suis rendu compte de ça après, mais au moment où je m'informais, je ne me rendais pas compte à l'instant de ce que c'était en train de causer en moi. En fait, c'est quand j'ai commencé à me sentir mal que j'ai réalisé que, mais attends, au fil des temps, j'étais plutôt en train d'accumuler cette peur en moi, et maintenant c'est arrivé au point où je n'arrive même plus à la contrôler. Donc c'est un peu ça.
On rappelle, Grace, elle a un petit peu développé ses désirs comme tout cela qui avait le désir de s'informer sur la pandémie. Au départ, ça semblait être sans danger. Le désir était d'avoir des informations. Mais on constate le fait qu'on ait présenté plus les dégâts liés à cette maladie que les possibilités d'en être protégé, cela vous a plongé dans un état de peur, dans un état de frayeur. Et il faut préciser que ce soit sur Internet, que ce soit à la radio, à la télé, avec le bilan quotidien que l'on faisait justement du nombre de morts, cela a davantage fait grandir en vous la peur de la mort.
Oui, justement, Vraiment, ça a été une expérience très, très unique. Très unique. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Donc, avec tous les rapports qui étaient donnés, je suis ici au Cameroun précisément, des centaines de morts, ça passait de bien qu'on communiquait aussi sur les cas guéris, mais c'était plus des cas infectés. Donc, c'était vraiment difficile. C'était difficile. Ça a causé en moi ce déficit psychologique que je n'ai pas su gérer. Je n'ai vraiment pas su gérer ces informations-là.
Alors, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que justement vous basculez, c'est-à-dire vous passez de la gestion d'une information simple à un état de psychose.
Oui, c'est précisément après m'être rendu compte que c'est réel. Parce qu'au départ, c'était pas trop ça. Je me disais, mais attends, mec. Je me posais toujours des questions. Mais quand j'ai commencé à vivre ça dans mon entourage, c'est-à-dire quoi? J'avais des nouvelles dans la famille, des personnes qui étaient atteintes et qui sont même décédées de cette maladie. Voilà là où la psychose s'est vraiment installée. Et ce n'était pas peut-être une personne ce mois et puis... Non, c'était à l'écart des jours où j'ai enregistré dans la famille une dizaine de morts, pratiquement. Vous imaginez? J'ai dit que ma attends, mais ça est en train d'attaquer même. Donc, vous voyez, quand la situation est proche, quand vous la vivez, elle devient réelle. Mmh. Donc, voilà comment la psychose s'est installée. Voilà comment tout a basculé, en fait. Mmh. Où je me suis vraiment plongé dans cet état. Et vraiment, c'était difficile. C'était très difficile. C'était même visible sur moi. Ça a provoqué en moi cette déficience-là. C'était visible, c'est-à-dire physiquement. On pouvait voir que, mais attends, celle-ci, elle est dépressive. Elle est vraiment anxieuse. Elle est en train de stresser. Oui, ça arrivait au point où je n'arrivais même plus à dormir la nuit. Je n'arrivais plus à manger normalement. Je ne l'arrivais même plus à penser à autre chose qu'à ça. Ça a vraiment commencé. Donc voilà comment la situation s'est vraiment dégradée.
Certaines ONG ayant pris conscience des effets dévastateurs de cette stratégie de communication autour de la mort, mise en œuvre pendant cette crise, ont rapidement œuvré à former les acteurs de la communication à une nouvelle méthodologie de gestion d'informations en temps de crise. C'est ainsi que la Croix-Rouge camerounaise et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont organisé un séminaire pour former les journalistes sur la bonne stratégie de communication en temps de crise. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Zainabou Ndoki, journaliste à Radio Bonne Nouvelle qui a participé à cette formation. Nous allons découvrir cette stratégie qui a commencé à avoir de l'effet. Vous avez eu l'occasion de participer à un séminaire de formation initié par la Croix-Rouge camerounaise. Quel était l'objectif de cette formation?
L'objectif de la formation organisée par la Croix-Rouge camerounaise et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'attention des professionnels des médias de la ville de Douala était justement de l'aide dotée d'outils nécessaires pour pouvoir communiquer de façon plutôt agréable, la bonne information à ceux qui nous écoutent. Dans ce cadre, ils ont donc mis sur pied la communication lifeline. Il était question de doter d'outiller ces journalistes-là de ce concept lifeline qui consiste à communiquer aux auditeurs, pas forcément le nombre de morts, pas forcément des choses alarmantes au sujet du coronavirus, mais de leur donner la bonne information, de leur parler par exemple des stratégies mises en place par le gouvernement et par de nombreuses autres organisations pour venir à bout de cette pandémie.
Si cette formation a été organisée, cela suppose que la gestion de la communication autour de cette pandémie a suscité beaucoup de peur au milieu des populations.
Beaucoup de peur, je dirais, oui, parce que quelquefois, ou bien au départ de cette épidémie dans notre pays, le 6 mars 2020, on a vu toutes les réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos médias, où plusieurs communicateurs et plusieurs influenceurs dans les réseaux sociaux s'attardaient notamment sur la communication, bien la diffusion des nombres de morts, la diffusion de certains cas alarmants. Et également, on a vu au départ de cette maladie au pays comment l'enterrement, l'inhumation des corps de COVID a suscité une certaine peur, une certaine psychose au niveau de la population. Je crois donc qu'il était question pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de demander aux communicateurs, aux influenceurs et surtout aux journalistes de la région du littoral, en fait, que ce sont des choses peut-être pas connues dans notre pays, mais il faudrait qu'on s'adapte, mais ne pas s'arrêter sur l'inhumation de ces corps ou bien sur le nombre de corps, le nombre de morts dus à cette épidémie au Cameroun, mais leur donner autre chose qui pourrait les aider, parce que venir dire à quelqu'un il y a eu 100 morts aujourd'hui, 200 morts, il y a eu 1000 nouveaux cas, ne va pas changer le fait que la maladie soit déjà là. Il faudrait par contre communiquer sur les mesures barrières édictées par le gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé, également appuyée par d'autres organisations internationales. Nous ne sommes pas seulement arrêtés à la formation, parce que justement après la formation, il était question de produire une série d'émissions avec ce concept de Lifeline, et pendant que nous produisions dans ces émissions, nous avons eu à inviter des médecins qui venaient parler d'autres choses aux populations, et parce que ces émissions étaient interactives aussi, lors des différentes réactions, nous avons compris en fait combien les auditeurs étaient apaisés, nous avons compris en fait qu'ils comprenaient, permettaient la répétition d'une autre façon cette épidémie. Je crois que les auditeurs ont compris la maladie d'une autre façon, elle a cessé d'être fatale pour elles ont compris en fait qu'en respectant les mesures barrières, on pourrait se passer de cette épidémie. Je crois que les émissions Lifeline mises en place par la Croix-Rouge camerounaise et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont vraiment aidé non seulement les journalistes, je parle de moi particulièrement, qui au lieu de communiquer toujours les nouvelles alarmantes, au lieu de communiquer toujours des nouvelles qui vont apeurer la population, nous avons commencé à faire autrement, et les auditeurs également lors de leurs appels nous montraient en fait qu'ils ont compris la maladie d'une autre façon.
Nous allons terminer notre entretien en présentant un petit peu cette stratégie, celle mise en œuvre par la Croix-Rouge camerounaise. Il s'agissait de quoi concrètement?
En fait, il s'agissait, comme je le disais tantôt, d'un concept à dénommer Lifeline, la communication Lifeline, qui consiste à véhiculer la bonne information, mais pas seulement la bonne information, de véhiculer l'information nécessaire aux populations. On prend un cas, il y a une catastrophe naturelle quelque part, pas revenir forcément sur le nombre de décès, le nombre de rescapés, le nombre de victimes, mais donner peut-être par la suite les stratégies mises en œuvre par le gouvernement ou bien par d'autres organismes pour aider, par exemple, les rescapés à pouvoir oublier ce qui s'est passé. Il est donc question de donner l'information nécessaire, l'information qui peut aider les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont soif de l'information. Il y a plusieurs qui ne connaissaient pas le nombre de centres de dépistage, par exemple, de coronavirus dans la ville de Douala, mais je crois qu'ils étaient informés au quotidien sur le nombre de cas, et je crois même justement que c'est l'une des raisons pour lesquelles le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a cessé de communiquer des chiffres à un moment, parce que chaque jour, presque tous les Camerounais étaient connectés sur son Twitter pour se renseigner sur le nombre des morts, mais cette stratégie, on l'a constaté par la suite, n'a pas beaucoup aidé les Camerounais. Ils avaient plus besoin de comprendre combien de centres de dépistage gratuits existent dans la ville de Douala, comment faire lorsqu'on est infecté, comment faire lorsqu'on vit avec quelqu'un qui a été déclaré positif au coronavirus. Donc voilà, en quelque sorte, la stratégie de la communication Lifeline mise en place par la Croix-Rouge camerounaise et le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont bien voulu la présenter aux journalistes de plusieurs régions, dont ceux de la ville de Douala.
C'est avec cette note d'espoir que nous mettons un terme à cette autre édition de votre programme Coronavirus et les communautés. Le virus est encore actif, d'où la nécessité pour nous de continuer de respecter les mesures barrières et de rester surtout prudents. Nous vous retrouverons très bientôt pour une nouvelle production et ça a été un plaisir pour nous de vous accompagner. Je suis Eric Dongo, à bientôt.